Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou.
Et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.
Bonsoir à tous, et oui, c'est la rentrée, c'est aussi donc la rentrée sur Poker Menteur, votre émission favorite mensuelle. Et aujourd'hui, nous allons avoir un invité, un écrivain, mais pas seulement, hein, qui écrit notamment donc des polars. Mais avant toute chose, nous allons écouter Jean-François avec Fenêtre sur le monde.
Fenêtre sur le monde, la chronique géopolitique de Poker Menteur.
Bonjour chers auditeurs, bonjour Mathieu, bonjour Jeff.
Bonjour Geneviève.
Bon alors dis donc Jeff, de quoi tu vas nous parler pour cette belle rentrée?
Eh ben pour la rentrée j'avais envie de parler de la Turquie. Alors pour démarrer la chronique, je vous propose un petit exercice intellectuel. Replacez-vous au début de l'année 2022 et essayez de caractériser la place de la Turquie dans la géopolitique mondiale.
Ouais, facile. Et ben écoute, tu nous laisses 4 heures.
Ouais, voilà. Hein. C'est pas facile du tout, effectivement, hein, car la Turquie n'était alors qu'un des nombreux États cherchant à exister sur la scène internationale, faisant parler souvent d'elle négativement, notamment pour ses actions en Syrie ou encore en Libye, et pour les dérives autoritaires, surtout de son dirigeant, hein, Recep Tayyip Erdogan. Or, aujourd'hui, la Turquie est devenue incontournable.
Bon alors en clair, comment ils ont réussi ce tour de force?
Eh ben finalement, c'est le contexte de l'invasion russe en Ukraine qui a aidé la Turquie à devenir le pivot essentiel des relations internationales.
Merci Poutine.
Merci Poutine, exactement. Il a d'ailleurs participé, Erdogan a rencontré Poutine et à la médiation entre les parties. Il a supervisé ainsi à Istanbul l'accord signé le 22 juillet par la Russie et l'Ukraine pour permettre la reprise des exportations des céréales ukrainiennes que de nombreux pays attendaient.
Attendent avec impatience.
Oui. Depuis, on a pu voir le dirigeant turc s'entretenir avec Poutine le 5 août, puis être reçu en Ukraine à Lviv, 2 semaines plus tard par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est-à-dire qu'il parle avec les deux. Il arrive à faire cet exploit. Et cela va te faire plaisir, Geneviève, parce que la géographie est pour beaucoup dans le regain de la puissance de la Turquie. En effet, il suffit de regarder une carte pour comprendre. La Turquie est géographiquement à un point de confluence particulièrement bien situé pour arbitrer le conflit entre la Russie et l'Ukraine, puisque ce sont ses voisins, tout simplement.
Donc elle peut faire le balancier, justement.
Voilà. De plus, la Turquie constitue une plaque tournante entre l'Est et l'Ouest, de manière plus générale, et entre le Nord et le Sud.
Alors, en clair, il n'y a que la géographie qui peut expliquer ça ?
Eh non, effectivement, t'as bien compris ce qu'il y avait de manière sous-jacente. Il y a des clauses plus prosaïques qui expliquent aussi l'engagement d'Erdogan dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine. La Turquie est dépendante économiquement des deux pays, en fait. Elle a des relations économiques très importantes avec l'Ukraine, puisque la Turquie importe des céréales d'Ukraine. Et elle a également construit une coopération militaire conséquente avec Kiev. D'ailleurs, la Turquie livre des drones très efficaces contre l'invasion russe à Kiev. De plus, la Turquie n'a pas hésité à accueillir quelques 100 000 réfugiés ukrainiens.
Alors, concrètement, quelle est la position de la Turquie par rapport à la Russie? Parce que s'ils aident les Ukrainiens, les soldats, ils accueillent des réfugiés, et Poutine, il accepte ça?
Et Poutine accepte ça parce que Erdogan va aussi accepter, enfin, aider quelque part la Russie. Sa relation avec la Russie est très complexe. Alors économiquement, la Turquie a besoin de la Russie, déjà au niveau énergétique, puisqu'elle importe 55% de son gaz de la Russie aujourd'hui, alors qu'il y a de moins en moins de clients pour la Russie. Ensuite, de très nombreux touristes russes, notamment les oligarques, qui sont interdits de territoire à l'ouest,
en Europe,
se rendent en Turquie pour y dépenser des fortunes. Ouais. Mais surtout, la Turquie a peur de la Russie qui domine au nord de la mer Noire, surtout depuis l'annexion de la Crimée. À l'est, la Russie est présente aussi puisqu'elle a des bases militaires dans le Caucase. Et au sud, on peut désormais dire que la Syrie, maintenant, c'est un protectorat russe, tout simplement. Donc là aussi, Ankara sent la pression russe et ne peut pas faire sans en tenir compte. D'ailleurs, Poutine peut très bien décider de casser le verrou syrien d'Idlib, où il y a des forces russes, et envoyer des millions de réfugiés syriens en Turquie. Il fait donc ainsi pression sur la Turquie. La situation serait donc ainsi intenable pour Erdogan, et Erdogan sait bien tout cela. De plus, Erdogan a besoin de Poutine pour empêcher les Kurdes de constituer une région autonome le long de sa frontière avec la Syrie. C'est d'ailleurs pourquoi il souhaite y installer les réfugiés syriens accueillis sur le sol turc depuis 2015.
Donc on reparle de la question kurde, au cœur de la crise ukrainienne.
Elle est toujours présente.
Alors tu viens de nous expliquer que la Turquie ne veut pas froisser la Russie, pourtant elle fait partie de l'OTAN quand même.
Eh oui, c'est ça qui est étonnant. Hein. Effectivement, depuis 1952, la Turquie est membre de l'Organisation Atlantique Nord. Depuis, elle n'a toujours pas respecté les règles du jeu quand même. Notamment récemment en 2019, lorsque Ankara avait fait l'acquisition du système antimissile russe, S-400, ce qui n'est pas dans les règles du jeu de l'OTAN. Et là aussi, donc, avec l'OTAN, elle fait double jeu. Dans un premier temps, Erdogan avait joué le jeu de l'Alliance occidentale, d'abord en interdisant le passage des détroits du Bosphore et des Dardanelles aux navires de guerre russes, le 28 février, puis en votant la condamnation de Moscou à l'ONU le 2 mars. Ensuite, Erdogan a un temps semblé jouer la carte Poutine, par exemple en acceptant d'acheter le gaz russe en rouble et en refusant d'imposer des sanctions économiques à la Russie, contrairement aux autres membres de l'Alliance occidentale. Surtout, il a fait vaciller l'OTAN en s'opposant à l'adhésion de la Suède et de la Finlande.
Comment ça, quel rapport avec la Suède et la Finlande ?
Erdogan y reprochait à Stockholm et à Helsinki de soutenir ses ennemis jurés, les Kurdes à nouveau, du parti PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, qui sont classés comme terroristes par Ankara. En effet, certains militants du PKK avaient trouvé refuge en Suède et en Finlande. Erdogan dénonçait également la présence dans ces pays de partisans du prédicateur Fethullah Gulen, qui est soupçonné par Erdogan d'avoir organisé une tentative de coup d'État en Turquie en juillet 2016. La Turquie exigeait aussi la levée de blocages d'exportation décidés à son encontre par Stockholm après l'intervention militaire turque dans le nord de la Syrie en octobre 2019. Finalement, c'est le 28 juin que Erdogan a levé son veto à l'adhésion de la Suède et de la Finlande, en échange quand même, pas de rien, mais de l'engagement de ces deux États à lutter pleinement contre le PKK. Pour l'OTAN, aujourd'hui, il s'agit de renforcer la Turquie afin d'empêcher l'accroissement de sa coopération et de sa dépendance à l'égard de la Russie. Les États-Unis devraient ainsi finir par livrer les avions de combat F-16 qu'ils avaient suspendus en 2019.
D'accord. Mais alors concrètement, aucun autre État ou aucune autre organisation n'est capable de prendre le relais de la Turquie dans son rôle de médiateur, de façon à avoir un jeu quand même un petit peu plus équilibré et respectueux des minorités comme les Kurdes.
Certains ont essayé, comme Emmanuel Macron, on l'a vu, mais Vladimir Poutine se joue plutôt des dirigeants occidentaux, puis c'est compliqué d'être à la fois d'imposer des sanctions et de travailler avec Poutine. Et puis au niveau des puissances régionales, ça pourrait être le Kazakhstan au niveau de l'Europe centrale, mais le Kazakhstan n'est pas aussi proche de l'Europe que la Turquie. Surtout, cette affirmation de la Turquie, en particulier dans ce rôle de médiateur, c'est le révélateur en négatif, malheureusement, d'une impuissance, et celle de l'ONU, qui est paralysée par son fonctionnement, par le fonctionnement de son Conseil de sécurité, incapable de jouer un rôle significatif face à la guerre en Ukraine.
Donc en clair, la guerre en Ukraine voit s'affirmer la puissance turque.
Oui, mais avec des enjeux nationaux turcs très très importants. Puisque l'inflation en Turquie est extrêmement forte, puisqu'elle dépasse 80% quand même aujourd'hui. On se plaint de nos 7%,
énorme.
Mais 80% depuis un petit moment. Le coût de la vie augmente donc pour les Turcs, de même que leur mécontentement à l'égard de leur chef. Il s'agit donc pour Erdogan, en jouant sur tous les tableaux de la scène internationale, puisque on voit qu'il a réhabilité aussi son dialogue avec l'Arabie saoudite et avec Israël, de trouver les meilleures solutions pour son pays et de flatter le nationalisme turc en espérant remporter la périlleuse élection présidentielle de 2023.
Donc en clair, on va voir s'il est aussi habile négociateur et diplomate auprès des siens.
Exactement, tout à fait. Merci.
Merci Jeff.
Poker menteur.
Poker menteur.
Galade.
Poker menteur.
Poker menteur.
Galade.
Bonsoir, vous êtes bien calé dans votre fauteuil, vous écoutez Poker Menteur avec ce soir donc sur Galade, nous avons un invité prestigieux, un invité, il faut quand même le dire, prestigieux. Et qui a un parcours assez étonnant, intéressant et nous allons donc consacrer cette émission un peu spécial à Sylvain Forge. Bonsoir Sylvain Forge.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Patrick et bonsoir Mathieu.
Il m'a pas oublié, tout va bien.
Ah non, je ne t'oublie pas, prof Pat. Alors, notre invité, donc Sylvain Forge, est né pas très loin d'ici, en Auvergne, pour être plus précis, donc à Vichy. Et je pense que c'est bien de le dire parce qu'on va voir que ça pourrait avoir une importance plus tard. Il est né à Vichy, il a beaucoup voyagé dans sa vie, dans sa carrière professionnelle ou autre, et il s'est installé il y a quelques années à Nantes. C'est bien ça, monsieur Forge?
C'est tout juste.
Donc, vous avez quitté donc, l'Auvergne pour la Bretagne. On va dire que Nantes, c'est la Bretagne. Hein, quasiment.
Oui, c'est ce que pensent beaucoup de gens, pas tous. Il y a débat.
Alors, Sylvain Forge, vous êtes à la fois spécialiste sur les questions de cybersécurité et en même temps, vous écrivez. Vous écrivez des romans, d'ailleurs, en rapport avec ce thème.
Et pas mal de romans policiers, pour être précis, mais pas tous.
Mais pas tous. Mm-hmm. Et des romans policiers, et d'après ce que j'en ai vu, vous avez commencé à écrire, d'après ce que j'ai vu, en 2009, votre premier roman qui s'appelait « La ligne des rats », si c'est bien ça, monsieur Forge.
Oui, tout à fait.
En 2009. Et nous avons ensuite, dans le temps, un roman qui a eu du succès, qui s'appelle « Le Vallon des Parcs » et que j'ai eu le bonheur de lire.
Et qu'on aura l'occasion d'évoquer durant l'émission.
Tout à l'heure. Et qui se passe en 1943 à Vichy. On aura l'occasion d'en reparler. Mais surtout, vous avez été en 2018 lauréat du Quai des Orfèvres avec un livre qui s'appelle « Tension extrême ». Et qui vous a permis de vendre à ce jour, d'après ce que j'ai eu comme information, plus de 150 000 exemplaires. Alors vous m'arrêtez si c'est...
Donc un
si
best-seller.
Donc c'est quand même un roman qui s'est bien vendu, monsieur Forge.
Oui, tout à fait. Le prix du Quai des Orfèvres, effectivement, est un roman qui a beaucoup de succès. Il y a beaucoup de lecteurs qui collectionnent d'ailleurs le prix.
D'accord.
Ce qui permet d'avoir aux éditions Fayard un lectorat un peu, pas captif, mais très, très assidu.
D'accord.
Et donc c'est vrai que ça permet d'avoir des ventes très assurées et assez importantes après chaque proclamation du lauréat.
Et on continue justement en 2020. Vous obtenez avec Sauvela le prix Polar du meilleur roman francophone au Festival de Cognac. Suivi du prix Découvert, donc ça en fait quand même des prix, hein, Polar pour les petits mots des libraires et du prix du roman Cyber 2021, etc., etc. Donc vous avez vraiment un parcours en tant qu'écrivain qui est vraiment abouti.
Et riche.
Et extrêmement riche. Donc on aura l'occasion d'en reparler quand on va s'attarder sur le roman donc, Le Vallon des Parcs. Mais vous êtes aussi expert en cybersécurité. Et on vous classe parmi les 100 Français qui comptent dans cette spécialité. Ce qui est aussi quand même quelque chose de...
Surtout avec la progression des problèmes de cybersécurité.
De complexe, c'est ce que j'allais dire, parce que...
C'est un sujet intéressant.
Quand on voit à quelle vitesse évolue la technologie numérique, mm-hmm. on se dit qu'il faut être... Ça, peut-être qu'on n'aura pas trop le temps d'en parler, qu'il faut être sans
ça
arrêt à la page.
Ça peut faire le jeu d'une autre émission.
Oui. Ouais. Alors, vous êtes aussi également conférencier. Et vous n'hésitez pas à passer dans les médiathèques, les salons littéraires... pour faire des conférences et éventuellement, je crois, vous passez aussi dans les établissements scolaires, il me semble. Est-ce que je me trompe, monsieur Forge ?
Tout à fait. Oui, non, c'est vrai. J'aime bien venir au-devant de mes lecteurs et aussi de partager un petit peu mes secrets d'écriture, de faire rentrer un petit peu mon lectorat dans l'intimité de mon travail d'auteur et d'expliquer qu'est-ce que c'est que la dramaturgie et que finalement l'écriture, c'est une forme d'artisanat et comme tous les artisanats, elle nécessite un savoir-faire, des outils. On croit beaucoup que l'écriture, c'est le génie, l'inspiration. En fait, c'est avant tout de la transpiration et
j'imagine,
ça s'apprend et ça s'acquiert.
Et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, d'ailleurs.
Et vous avez récemment sorti un ouvrage qui s'appelle Sarah aux éditions Fayard, là.
Votre dernier ouvrage.
C'est votre dernier ouvrage. Et on vous souhaite autant de succès.
Tout à fait.
Merci.
Alors, je pense qu'on peut déjà passer à la première partie de notre émission, l'environnement historique de l'histoire.
La thématique globale, quand même, pour expliquer aux auditeurs de cette émission.
La thématique globale, on avait un peu compris. Alors,
la question du polar, du rapport entre le polar et l'histoire.
Et l'histoire.
Voilà.
Polar et histoire. Et donc, première partie, l'environnement historique de l'histoire, ou le choix d'une arène.
Qu'est-ce que ça signifie ? Quelle est la signification de ce terme étrange, le choix d'une arène ?
Ouais. Alors, dans le dans le jargon de l'écriture, et particulièrement d'ailleurs dans le domaine de l'écriture de scénario, par rapport à l'écriture de roman. Le scénario, c'est écrire des histoires qui sont destinées à être vues, alors que l'écriture, c'est écrire des histoires qui sont destinées à être lues. Il y a un thème qui revient, c'est l'arène. C'est un sujet d'ailleurs qui a été beaucoup développé par Alfred Hitchcock, notamment à l'occasion de ses entretiens avec, avec Truffaut. L'idée de l'arène, c'est qu'une histoire prend toujours place dans un certain environnement. Mmh. Alors, ça peut être une ville, ça peut être la jungle amazonienne, comme dans Le Salaire de la peur, ça peut être un monde imaginaire futuriste, comme dans Blade Runner ou dans Dune, ouais. Ou dans Star Wars, Étoile de la mort, peu importe. Ce qui est important, c'est que le truc, si vous voulez, c'est que quand vous écrivez une histoire, il faut que cette histoire donc, s'incarne dans un espace, et que cet espace ne doit pas simplement être évoqué de façon lapidaire, en disant, bon, ben voilà, elle prit un billet d'avion, elle arrive à New York, et l'histoire commence. Et finalement, New York passe un peu au second plan. Et
ça ne suffit pas pour l'incarner.
Et le lecteur, voilà, il faut que, comme le dit Hitchcock, il dit que l'arène doit absolument. Il faut que l'histoire exploite absolument tous les éléments narratifs de l'arène. Hitchcock disait, par exemple, si un de mes polars se passe en Suisse et qu'un personnage meurt noyé, il va mourir noyé dans un lac suisse. Si quelqu'un doit tomber d'une hauteur, il va tomber dans une crevasse, dans un glacier. Et si on doit cacher un message secret, on va le cacher dans un coucou suisse. Voilà. Et l'idée, c'est que comme on exploite tous les éléments narratifs de l'arène, eh bien, ça va renforcer la cohérence de l'histoire, le caractère dramatique de certaines situations, et ça va aider le lecteur à s'identifier à tout ce qui se passe.
D'accord.
Et évidemment, pour en revenir au sujet de l'émission, c'est d'autant plus important lorsqu'on choisit un cadre historique pour raconter un récit.
Alors, dans vos polars, on a parlé du Vallon des Parcs qui se passe donc en 1943 à Vichy, donc durant la collaboration. Est-ce que vous avez eu d'autres polars, parce qu'on n'a pas tout lu, j'en suis désolé, qui se passent à des périodes plus reculées, historiquement parlant ?
Alors, non, je ne suis pas, allé au-delà de la Seconde Guerre mondiale. J'ai écrit Sous la vie, qui procède par de nombreux flashbacks et qui se déroule en partie durant la guerre d'Algérie, donc dans les années 50-60. Mm-hmm. Donc, du coup, non, je ne suis pas allé au-delà pour l'instant.
Votre champ d'intérêt, c'est l'histoire récente de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours, en quelque sorte.
Oui, mais alors c'est vrai que bon, j'ai écrit un roman jeunesse qu'on peut considérer comme étant un roman de fantaisie, là, Le Royaume du Fleuve. Ouais. Mais comme c'est un roman un peu steampunk, finalement, je me suis pas mal intéressé au 19e siècle, à l'époque victorienne, et aussi un peu à la guerre de Cent Ans, puisque ce roman raconte, après un cataclysme, une humanité qui se retrouve plongée dans un nouveau Moyen-Âge, en fait. Donc j'ai finalement pas mal étudié le Moyen-Âge, mais bon, voilà, j'en ai pas fait une arène spécifique.
Très bien, très bien. Donc ça, c'était la première partie, donc le choix d'une arène. Et comme vous l'avez dit, il faut quand même se renseigner, donc d'où la partie suivante qu'on aimerait aborder, donc la question des recherches qui sont nécessaires, puisque il va falloir faire quelques recherches pas dire de bêtises, quoi, on va dire. Si vous parlez de New York, encore faut-il connaître New York. Oui. Comment vous faites vous procédez
C'est très important de faire des recherches. D'abord parce qu'évidemment, vous pouvez sortir des âneries. On parlait du Vallon des Parcs qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale.
Dans la ville de Vichy.
Dans la ville de Vichy. Donc là, évidemment, il y a encore le risque, entre guillemets, d'avoir affaire à des contemporains de la période, assez âgés, mais qui sont encore tout à fait aptes à vous envoyer un petit mail pour vous dire, attendez, là, il y a quand même une
il y a une incohérence,
etc.
ici.
Je dois dire que J'ai pas eu affaire à. Il est arrivé qu'on m'évoque des coquilles dans un texte, souvent d'ailleurs des professeurs de français. Et d'ailleurs, j'en prends toujours bonne note et ça sert toujours.
Et on salue nos collègues professeurs
poche.
Français.
Voilà. Mais non, par contre, c'est vrai que pour le Vallon des Parcs, j'ai été interpellé deux, trois fois, mais c'était souvent pour me dire, au contraire, que le roman avait ravivé des souvenirs d'une époque difficile, mais qui avait été agréable, en fait, pour les protagonistes, parce que c'était leur jeunesse, tout simplement. Et du coup, c'était assez touchant, parce que les gens m'écrivaient de longues lettres en m'expliquant que, voilà, ils me parlaient du parcours de leur père, qui avait été prisonnier en Allemagne, d'un pharmacien qui se trouvait à telle rue, qui avait fait telle chose. Enfin, bon, et du coup, voilà, c'est... Donc, c'est important, effectivement, de faire des recherches pour que l'histoire soit crédible, pour... ne pas injurier le passé, surtout si vous avez quand même quelque part un petit devoir de mémoire que vous entretenez en évoquant des thématiques sur la Première mondiale notamment et l'occupation. Donc autant essayer d'être juste par rapport aux faits, et puis par respect aussi pour les gens qui sont morts, qui ont souffert durant cette période. Mais par contre, la documentation, évidemment, c'est très important. Mais il ne faut pas oublier que, moi je ne suis pas un historien, je suis un amateur d'histoire, je ne suis pas diplômé d'histoire, je ne prétends pas écrire des essais historiques, je ne suis pas journaliste non plus, je suis un romancier dont l'ambition est de distraire le lecteur. Voilà. Donc j'essaye d'avoir des récits qui sont le plus crédibles possible, mais je peux aussi prendre des libertés par rapport à l'histoire, je peux faire dire des propos à des personnages historiques qui n'ont jamais dit. Avec comme seule finalité de créer un effet dramaturgique qui va créer du suspense ou de la tension et qui va, faire plaisir au lecteur. Voilà. Donc ça, c'est très important. Je le dis toujours au début de mes romans que des personnages réels peuvent avoir été utilisés fictivement, c'est possible, uniquement pour servir le récit. Voilà. Et donc, le but d'une histoire, le but d'un roman qui est dans l'histoire, c'est d'abord avant tout des personnages, des émotions, des ressentis, et le contexte ne doit pas être trop lourd. C'est ça, c'est aussi un peu l'erreur du débutant, qui était la mienne probablement, c'est qu'on a tendance à étaler ses fiches de lecture au fil des paragraphes, avec des renvois, et du coup ça devient un peu lourd pour le lecteur. Il faut simplement aller droit, il faut vraiment avoir beaucoup étudié, avoir amassé beaucoup de documentation pour être capable d'en retranscrire la substantifique moelle. Voilà. Afin que vous ayez juste la petite information qui fait très vrai, qui est absolument pertinente et décisive, et qui va faire avancer l'histoire, mais pas étaler.
Par exemple, dans le Vallon des Parcs, vous étiez à Vichy, qui n'est pas une ville neutre, donc malgré tout, il fallait être précis sur les rues de Vichy, etc., parce que c'était quand même un lieu de pouvoir fort en 43. Vous avez l'avantage d'y avoir résidé, de connaître bien cette ville. Après, il y a le travail spécifique de vérifier si le Vichy actuel est cohérent avec le Vichy de 43. Vous avez fait un peu de recherche à ce niveau-là, histoire de pas faire de petites boulettes sur un nom de rue, sur des choses comme ça, ou pas particulièrement?
Aussi bien sûr, parce qu'il y a pas. C'est vrai que il y a des rues qui ont été débaptisées. Avenue du. Toutes les rues où figurait le nom de Pétain ont été enlevées, évidemment. j'ai réussi à récupérer un plan des rues de Vichy de 1935. Donc je me suis basé sur celui-là, en estimant qu'il était assez peu probable qu'entre 35 et 43, il y ait eu beaucoup de rues qui aient changé de nom. Et d'ailleurs, beaucoup de noms de rues à l'époque, aujourd'hui existaient déjà à l'époque. Donc voilà, il y a eu assez peu de changements finalement. C'est l'avantage de ces villes thermales, qui sont finalement, par définition, un peu intemporels. C'est vrai, c'est toujours une impression étrange qu'on a dans une ville thermale. Ce sont beaucoup de bâtiments qui sont protégés par les monuments historiques, etc. Donc il y a tout un contexte, c'est tout un tas de choses qui font que ces villes ont très peu évolué, très peu changé depuis cette période, et donc on peut, en y flânant, presque ressentir l'atmosphère de l'époque. Quand vous êtes dans le vieux Vichy d'aujourd'hui, franchement, on pourrait poser une caméra, mettre des gens en uniforme velcro ou faire avancer une ou deux tractions avant, on aurait vraiment l'impression qu'on est encore dans cette période.
Et d'ailleurs, en lisant ce roman, je pensais un peu à un aspect un peu cinématographique. Je me disais, on pourrait faire une adaptation assez facilement, moyennant ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire l'existence d'un vieux Vichy assez cohérent. Je voyais assez, sur un plan cinématographique, les évolutions à l'intérieur de la ville, les sorties de la ville, dans les environnements, le type d'environnement que vous décrivez de campagne. C'était assez précis, un peu comme impression, vu les descriptions que vous en faisiez.
Oui, la montagne bourbonnaise, puisque c'est d'elle dont on parle, c'est cet environnement un peu sauvage qui se trouve autour de Vichy, qui est très beau, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup arpenté en vélo, en randonnée. J'aime beaucoup Vichy, je suis amoureux de ses alentours. Et donc c'est vrai que peut-être que ça se ressent, effectivement. J'aime beaucoup aussi les écrits qui s'inspirent du natural writing américain, où il y a beaucoup de place qui est donnée à la description des paysages, des forêts, etc. L'idée aussi, c'était de montrer dans ce roman que il y a à la fois un danger dans les villes, qu'on peut comprendre, mais que les environs semblent finalement assez sauvages et semblent aussi assez dangereux finalement. On ne sait pas trop où est-ce qu'on est le plus à l'abri, si c'est dans la cité ou autour.
Tout à fait. On va faire une première pause musicale. choisi par notre invité. Nous vous désannoncerons ça après. Pour l'instant, c'est une surprise. C'est parti, Mathieu.
Bitte sag mir, liebt ihr sie, meine kleine Lieblingsmelodie. Manchmal, wenn mein Herz aus irgendeinem Grunde weint, tröstet mich sofort mein allerbester guter Freund. Und das ist meine Melodie, nach der ich singen muss, nach der ich pfeifen muss und tanzen muss und springen muss. Mehr als die schönste Rhapsodie, die, 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 lieb ich meine kleine Melodie.
Vous écoutez Poker Menteur, une émission aujourd'hui avec Sylvain Forge, spéciale sur polar et histoire. Vous venez d'entendre Ilse Werner, Ja, das ist meine Melodie. Et je crois, Monsieur Forge, qu'il s'agit d'un tube des années 30-40 en Allemagne.
Oui, effectivement, c'était un standard de l'époque, très très populaire en Allemagne, et qui m'a semblé intéressant à évoquer aujourd'hui, parce qu'il témoigne un petit peu de l'atmosphère, finalement, de cette période côté allemand, et comme le ballon départ qui est consacré à l'occupation, eh bien, voilà, je trouvais que c'était un peu raccord.
Alors, nous avons parlé des recherches nécessaires donc, pour l'écriture d'un polar, ici, et quelles sont les nécessités aussi par rapport à la cohérence des personnages avec leur temps ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Oui, alors, par rapport à une période quand même qui est éminemment complexe, qu'on a tendance peut-être à voir de façon un peu binaire, noir et blanc, les résistants, les collaborateurs, etc. C'était une période extraordinairement complexe, et d'ailleurs, plus on avance dans le temps, plus les historiens dévoilent l'ambiguïté et la complexité de la période. Et du coup, il était vraiment important pour moi que mes protagonistes ne soient pas en avance sur leur temps. C'est-à-dire qu'ils soient, comme les gens l'étaient à l'époque, dans l'expectative totale, confrontés à l'inconnu de ce qui allait arriver, ouais. Et que leur décision, leur choix soient le reflet de cette espèce d'incertitude
quelque part.
Oui, parce que nous, on sait que la guerre s'est terminée quelques temps après, mais eux ne le savaient pas.
Bah oui, non, mais c'est pas. Que... de fait.
Voilà. Ouais. Et c'est vrai que parfois dans les films, les héros, les protagonistes sont en avance sur leur temps.
C'est ça, ouais, absolument. C'est une facilité scénaristique.
C'est ça. Ils ont, alors, je sais pas, il y a un exemple qui est connu, c'est Guillaume de Baskerville dans Le Nom de la Rose. Mmh. Ce moine franciscain qui semble déjà une sorte de Sherlock Holmes avant l'heure,
qui
effectivement manie dans un monde, dans un environnement extraordinairement superstitieux, peu sordide, etc., apparaît comme un personnage solaire, maniant l'humour, l'ironie, et absolument
qui a plusieurs siècles d'avance, quoi, quelque
voilà,
part.
Voilà, au moins, enfin, si ce n'est, au minimum plusieurs décennies, voire plusieurs siècles d'avance.
Ouais.
Alors évidemment, c'est un personnage très attachant et j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais c'est voilà, c'est pas le choix que j'ai fait dans le ballon de départ. Et d'autant plus que, comme mes protagonistes sont pour la plupart des policiers, c'était très important que voilà, ils soient comme tout à chacun en 43 et on ne sait pas ce qui va arriver.
Ah oui, on ressent bien ça. Voilà.
Ça, d'ailleurs, bah parfois ça. Ça place l'auteur dans une situation qui peut sembler un peu délicate, c'est-à-dire une journaliste du Journal du Dimanche m'avait dit par exemple, ah bah dans Le Ballon Départ, vous êtes finalement assez assez bienveillant avec le personnage du Bousquet par exemple, vous l'égratignez pas trop, etc. Et je disais, mais bon d'abord. Le propos n'était pas de faire
de défendre Bousquet.
Je me suis juste mis à la place d'un de ses subordonnés de l'époque, qui finalement ne savait rien de la Shoah, ou, enfin, qui connaissait certaines lois antisémites, dont il pouvait d'ailleurs être même le plus ou moins l'agent conscient. Ouais. Mais enfin, bon, voilà, on ne savait rien, on ne savait pas de ce qui se passait vraiment à cette période. Et du coup, Bousquet est apparu au départ comme étant très positif, enfin, a bénéficié d'une image très positive auprès de la police nationale, parce qu'il a mis fin à ces polices parallèles qui avaient pullulé sous Pucheux, le Premier ministre de l'Intérieur, à partir des années 40. Et il a redonné finalement aux policiers leur crédibilité. Quoi.
Voilà. Voilà, ouais. Le sens de l'État, de respect de l'État, voilà, une forme ça, de modération l'État, quelque part, etc.
Voilà, l'État central, etc. Et du coup, les policiers lui en ont été grés. Et du coup, à l'époque, il bénéficiait d'une bonne image, qui s'est peut-être sans doute écornée assez vite l'année suivante. Ouais. Mais voilà, le propos, c'est que le ballon débarque, ça se passe à un instant précis. Avec une unité de temps et de lieu pratiquement, et du coup c'est important que les personnages réagissent comme ils auraient pu le faire s'ils avaient été vraiment à ce moment-là, dans ces circonstances-là.
Et concernant les femmes dans les années 40, vous vouliez développer un petit peu cette thématique-là, des personnages féminins dans les années 40. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces personnages, de ces femmes?
Oui, là aussi, peut y avoir une tendance aussi, peut-être dans le cinéma américain, d'essayer de systématiquement, en s'emparant d'un sujet historique, d'essayer de trouver un parallèle avec notre époque. Alors c'est toujours séduisant quand on voit ça à l'écran, ça fait toujours réfléchir, mais peut-être que des fois, ça peut être aussi un peu artificiel. C'est pareil, là, la condition de la femme, on peut dire, c'est a priori amélioré après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elles ont été amenées à occuper un rôle très important dans l'économie, puisque les hommes étant prisonniers ou sur le front, ou en guerre, ou morts. Et du coup, on s'est rendu compte qu'elles étaient capables de faire tourner du travail à l'usine ou ailleurs, et de faire tourner se débrouiller sans les hommes, finalement, d'une certaine façon. Et du coup, elles ont obtenu le droit de vote, le suffrage universel, etc. Et ça a été le début d'un mouvement qui a été amplifié avec le féminisme et qui débouche aujourd'hui sur encore des évolutions qui se poursuivent, et c'est tant mieux. Mais sauf qu'il n'empêche, il n'en demeure pas moins qu'à l'époque, elle n'était pas. La France était une société très, très patriarcale.
Avec des rôles stricts selon les genres, etc.
Le régime de Vichy, de l'État français, du maréchal Pétain, n'était pas un modèle de progressisme. Et donc, c'est important que dans le roman, cet immobilisme ou
ce
déséquilibre entre les sexes ne soit pas masqué, occulté.
Tout à fait, tout à fait. Très bien. On va donc passer à la partie suivante. Franck, si tu le veux bien.
L'apport du contexte historique aux techniques de dramaturgie. Alors, simplement un petit détail par rapport au contexte historique. Donc, on est en 43 pour le Ballon des Parcs. Et donc la zone libre n'est plus libre, on dit la zone sud, parce que la zone libre a été, envahie par les nazis, parce qu'en Afrique du Nord, on a eu le débarquement. Est-ce qu'il y a eu, ça c'est une question que je me suis toujours posée, est-ce qu'il y a eu à l'époque à Vichy un ressenti par rapport à ça, du fait que en fait Pétain n'avait plus aucun pouvoir réelle sur la zone libre. Ça, c'est une question qui me taraude, Monsieur Forge. Qu'est-ce que vous en pensez?
Un ressenti au niveau de son entourage.
C'est
de
ça,
la
c'est ça. Au niveau de son entourage.
Ou de son entourage.
Ouais. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, à partir du moment où la zone sud a été envahie, tout le discours, toute la chimère sur le maréchal a sauvé l'essentiel et l'État est tenu et nous sommes encore maîtres chez nous et dans le cadre strict de l'armistice, nous avons une marge de manœuvre et nous œuvrons pour obtenir dans l'Europe qui sera allemande la meilleure place possible pour la France et on est notamment le contrôle de notre police.
Donc tout ça, c'était plus crédible.
Voilà, donc ça c'est tombé et effectivement on a des personnalités qui ont demandé, qui ont tenté de convaincre Pétain d'aller se réfugier en Algérie.
Absolument.
Pour continuer la lutte ou du moins se mettre en rapport avec les alliés qui maintenant allaient bientôt ou tard occuper l'Afrique du Nord puisqu'ils venaient de débarquer quelques mois plus tôt. Voilà, donc ça c'est sûr qu'il y a eu une partie de l'entourage qui a... C'est sûr que la décision historique tragique, une de plus, mais que celle-là a été vraiment absolue, c'est-à-dire le fait de rester à ce moment-là a fait que c'était un peu, j'ai envie de dire, les masques. À partir du moment où vous restez
dans un pays, il a fait son choix.
Vous n'avez plus aucun pouvoir effectif, vous endossez tout ce qui va se passer par la suite. Et donc, alors dans la population, c'est vrai que c'est complexe. Quand on lit c'est intéressant, par exemple, de lire les rapports des renseignements généraux qui étaient édités à cette période et qui, justement, avaient pour mission d'informer l'État sur le ressenti de la population. Mmh. Vous aviez finalement une certaine... Pétain a gardé une image positive quand même assez longtemps, dans les derniers déplacements qu'il a fait à Lyon, notamment peu de temps après le débarquement, il y avait encore une foule dense qui l'acclamait. Certains disent d'ailleurs que c'était même la même qui allait acclamer De Gaulle quelques mois plus tard. Mmh. Donc il a bénéficié quand il était enlevé par les Allemands donc à l'hôtel du Parc en mois d'août 44, il y avait encore une large foule qui s'était réunie pour le soutenir et lui rendre les honneurs. Et à côté de ça, vous aviez la population, par ailleurs, était très pro-alliée, attendait le débarquement. Et voilà,
c'était pas une sorte d'apparente incohérence, mais dans l'esprit des Français, c'était pas incohérent, quoi.
Non, il y avait toujours... certaines émanations du régime étaient détestées à un point total. La milice, par exemple, qui était, à juste titre, la phalange maudite de ce régime, était particulièrement haïe de la population et haïe, d'ailleurs, d'une bonne partie de la police et des gendarmes qui étaient soumis tout en étant... donc, on pouvait à la fois haïr... Certains services qui étaient l'émanation directe du maréchal Pétain et en même temps...
conserver du crédit pour le personnage du maréchal.
Voilà, continuer d'être relativement respectueux de sa figure, du contenu de son passé et en même temps ne pas être dupe et attendre activement la libération dont on savait que seuls les alliés en seraient la clé. Quoi. Voilà.
Alors, revenons à notre question, donc la question des techniques de dramaturgie déjà, et ce que le contexte historique peut apporter aux techniques de dramaturgie. Peut-être un mot sur les techniques de dramaturgie.
Voilà. Alors, donc, comme je l'expliquais un peu plus tôt dans l'interview, je crois qu'on en a parlé avant l'émission. C'était hors antenne, voilà. L'écriture, qu'est-ce que c'est que l'écriture, finalement? C'est, selon moi, c'est une forme d'artisanat qui, comme tout artisanat, s'apprend, se transmet. Raconter des histoires, c'est un savoir-faire qui se transmet depuis l'origine de l'espèce, en quelque sorte, depuis le temps des hommes préhistoriques ou dans les cavernes, où avec ses mains, on racontait une partie de chasse, etc. Donc ça s'apprend, ça se transmet. Alors, il n'y a pas d'école, effectivement, pour apprendre à écrire des romans. Contrairement au conservatoire, on va vous apprendre à jouer du piano et à l'école des beaux-arts, on va vous apprendre à sculpter. Il n'y a pas des grandes écoles où on apprend l'écriture. Mais il y a quand même des gens, des dramaturges, des experts qui ont compilé ces techniques et c'est vrai, beaucoup orienté notamment vers le monde du scénario. Et donc, dans ces techniques-là, on nous explique que donc ça s'appelle la dramaturgie, hein, ça a été inventé depuis Aristote et depuis Victor Hugo, en passant par Truffaut ou Hitchcock, et puis George Lucas ou Spielberg. On a des gens qui ont parfait ce savoir-faire. Et c'est vrai que l'histoire... L'importance de la dramaturgie, c'est d'avoir de beaux personnages qui ont des buts élevés à atteindre et qui vont devoir traverser des obstacles pour y parvenir. C'est ça le principe d'une histoire. Le personnage, le but à atteindre et l'obstacle. Et il faut que le personnage soit attachant, ambivalent, avec des faiblesses. Il faut qu'on s'en identifie à lui. Il faut que le but à atteindre soit particulièrement élevé et ambitieux pour qu'il y ait un vrai suspense. Et puis, il faut que les obstacles soient réussis. Voilà. Et évidemment, quand vous choisissez un contexte historique qui est particulièrement dramatique, par définition, la Seconde Guerre mondiale, pas fini mieux. J'ai envie de dire, vous avez là une matière, une glaise qui est quand même particulièrement excitante à utiliser et qui, normalement, si vous vous y prenez bien, ça peut vous aider à avoir une histoire extraordinairement forte. Voilà.
D'accord.
C'est ça l'idée.
D'accord, très bien. Très bien. On va peut-être faire une deuxième pause musicale,
Mathieu. Deuxième pause musicale, oui, absolument. Serge Reggiani, Fleur de Méninge.
C'est parti.
J'ai la méninge qui fleurit, la nature m'a tout appris. Je suis poète, ma fortune est bien entendue, comme un beau jardin suspendu dans ma tête. Par de mémoire, des myosotis, souvent mon araignée antissant sa toile. Fait un hamac pour ma pensée qui de là rêve en d'Odyssée. Mais la voile, quand je m'embarque au grand bonheur, je peux tout dire avec des fleurs de méninge. Quand je m'en vais compter fleurette, pas besoin de rose ni de pâquerette au smoking-je, suffit pour être ensorceleur de savoir faire pousser des fleurs de méninge. Je ne cultive pas le souci, mais je me rends vite à merci quand on cueille les plus douces pensées d'amour et la margerie t'alentour que j'effeuille. Des fleurs poussées par ma passion, j'en fais éclore sans aversion sur le bitume. Tout un parterre en jiponné, de belles de nuit, des tchelonéons s'allument. Quand je joue aux belles oiseleurs, je peux tout prendre avec des fleurs de méninge. Pour étourdir la midinette, pas besoin de rose ni de pâquerette au dansinge, suffit pour ce gentil labeur de savoir faire pousser les fleurs de méninge. Je pense trop et je suis trop beau pour faire de vieux os de barbeau. Je m'en flatte, tranquille, j'attends qu'un voyou, comme pour me guérir du mildiou, me sulfate. Ou bien qu'on me plante au surin, sur le ventre, un joli jardin, qu'on me vaccine. Bref, qu'on m'envoie sans m'en faire part, grignoter les pissenlits sans lipard, la racine. Quand je m'embarquerai pour ailleurs, tout sera dit en quelques fleurs de ménage. Pour m'en aller aux oubliettes, pas besoin de roses ni de pâquerettes ni de métinges. Pas besoin non plus d'orchidées, mais d'un simple bouquet d'idées. Suffira de verser quelques pleurs pour arroser vos propres fleurs de ménage.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
Calade.
Vous êtes bien sur Calade. Nous sommes avec Sylvain Forge, émission spéciale Polar et Histoire, et venu d'entendre Serge Adjani, Fleur de Méninges. Alors, nous allons maintenant rentrer dans évoquer un roman de Sylvain Forge.
Un des premiers romans de Sylvain Forge, paru en 2014, de mémoire.
2013. Oui. Alors, Le Vallon des Parcs, nous sommes à Vichy en 1943, aux portes de la ville. Plusieurs fillettes ont été sauvagement assassinées. Dans les fermes de la montagne bourbonnaise, on évoque un animal ou des truands profitant du désordre, voire même un aliéné. Les autorités se perdent en conjectures.
Donc on est sur une présentation, un pitch très très étonnant, puisqu'on a à la fois un aspect polar, un aspect enquête policière sur une sorte de serial killer avant l'heure, et puis un contexte historique très fort, puisqu'on est pendant l'occupation à Vichy, en quelque sorte. Voilà comment se présente un peu Le Vallon des Parcs, qui est une bonne illustration de l'émission qu'on est en train de dérouler. On vous laisse la parole, Sylvain Forge. Est-ce que vous voulez commenter ou éventuellement nous lire un extrait du Vallon des Parcs?
Oui, alors, les deux,
mon général.
Mon capitaine.
Oui. Général. Oh, capitaine, bon, tant pis.
l'objectif que je voulais avec Le Vallon des Parcs, c'était d'écrire un polar qui se passe pendant l'occupation et notamment qui met en scène, donc, des policiers durant la Seconde Guerre mondiale. Je voulais simplement, la question que je m'étais posée, c'était: peut-on être un policier ordinaire, ouais, et faire son travail, ouais, dans une époque aussi particulière sans, mm-hmm, être compromis d'une façon ou d'une autre?
Et on ressent très fort ce questionnement tout le long du roman.
Voilà. Surtout qu'on se souvient qu'à l'époque, les policiers d'élite des brigades mobiles, mm-hmm, les fameuses brigades du Tigre, qui étaient donc les serviteurs de la Troisième République, mm-hmm, et qui ont notamment servi le Front Populaire à ce titre-là, se sont retrouvés bien embarrassés au début de la Seconde Guerre mondiale, puisque un certain nombre d'individus qu'ils avaient mis sous les verrous, que ce soit toutes sortes de fascistes, de gens qui étaient à coquiner avec l'Italie, avec notamment le sinistre réseau de la Cagoule, ouais, qui était, mmh, un réseau terroriste qui voulait remettre le roi sur son trône en faisant sauter des bombes, et qui avait notamment fait des attentats meurtriers dans les rangs de la police. Eh bien, on a vu le régime de Vichy finalement sortir de prison plusieurs cadres de ces mouvements et leur donner des postes éminents. Ouais. Et on a vu donc comme ça des policiers qui un jour avaient arrêté des gens et le lendemain qui se retrouvaient placés sous leurs ordres.
Oui, ça a dû être extrêmement difficile, voilà, pour eux.
Alors ça, évidemment, ce contexte et cette situation, pour un romancier, c'est du pain béni, parce, ouais, que c'est riche en situations éminemment dramatiques. Voilà. Mm-hmm. Et donc, le passage que je vais vous lire, qui est donc raconte comment, finalement, le régime de Vichy, après avoir purgé drastiquement les rangs de la police au début de la guerre, s'est rendu compte que c'était bien beau de mettre des collabos et des affidés avec des cartes de commissaire de police dans la rue, etc. Mais ça n'en faisait pas pour autant des bons policiers.
Voilà. Et il y a un problème de compétences.
On a manqué de compétences. Du coup, on est allé chercher les gens qu'on avait évincés en leur disant « Bon, écoutez,
revenez.
On va faire un reset. Mm. On passe l'éponge sur vos fidélités passées qui font un peu tâche, mais enfin bon, allez, allons de l'avant. Et en échange de votre serment de fidélité au nouveau régime, eh bien, vous pourrez reprendre vos fonctions et peut-être même faire une belle carrière chez nous. Voilà. »
Voilà. Mais ne faites pas de vagues, en tout cas.
Voilà, ne faites pas de vagues. Et donc cet extrait raconte un dialogue entre un juge qui lui est plutôt, on le devine, dans la lignée du nouveau régime, et puis un des personnages de ce roman qui s'appelle André Lange et qui lui était un commissaire émérite, mmh, oui, qui va prendre finalement du galon dans ce nouveau régime.
Totalement.
Alors que certains des commissaires qui étaient sous ses ordres, eux, vont plutôt être neutres, voire passer dans la résistance. Et, mmh, finalement, l'histoire, c'est un peu l'histoire de ses amis, hein, qui étaient quand même des policiers très, très soudés, ouais, qui forment une sorte de deuxième famille, qui vont comme ça, hein, cette famille va éclater, en fait,
hein, ouais, en quelque sorte, ouais, tout à fait,
durant cette période, et montrer que les destins individuels tiennent à peu de choses, finalement.
Voilà. Ouais. On vous écoute.
Voilà. Donc, le juge en question s'appelle Floch, et l'ancien commissaire s'appelle André Lange. Floch attachait son regard sur la veste de Lange, l'air navré. « Écoutez, cher ami, comment vous dire ?» Il lui montra un coin à l'écart. En tant que patron de la police judiciaire, vous pilotez une partie de la lutte contre les ennemis de la France nouvelle. Vous prenez votre charge et n'en percevez pas encore toute l'étendue. Vous verrez qu'en ces temps troublés, la séparation des pouvoirs est devenue contingente. Vous êtes le bras exécutif de l'exécutif. Je n'ai pas à me mêler de vos activités, mais c'est une simple théorie. Car en dirigeant votre enquête, je dois répondre de votre plein engagement envers le maréchal. Il y va de ma crédibilité. L'ange crispa les mâchoires. Soyez-en assurés. Bien sûr, là n'est pas mon problème. Je vous parle de symbolique, d'image. Je ne crains de pas vous suivre. Floche semblait fatigué de tourner autour du pot. Vous connaissez l'ordre de la Francisque ? L'ange baissa les yeux sur l'insigne qui luisait sur le veston du magistrat. Une distinction du maréchal destinée à récompenser ses meilleurs serviteurs. À ce qu'on m'en a dit, c'est une récompense convoitée et chichement distribuée. Exact. Et je tiens à ce que vous fassiez une demande pour en obtenir une. Ce sera le signe de votre pleine fidélité envers le chef de l'État et l'assurance aux yeux de tous que mon collaborateur policier est fiable. Monsieur le procureur, rien ne dit que ma candidature sera retenue. Floge esquissa un sourire. La Francisque est décernée en conseil. Je connais la plupart de ses membres. N'ayez aucune crainte. Vous aurez cette décoration. Je n'ai pourtant pas que des amis dans... Il s'agit de politique maintenant. Vos compétences policières vous ont sauvé la mise pour le moment. Mais le vent peut tourner. Je vous propose une opportunité qui ne se présentera pas deux fois. Comment les choses se passeront-elles ? Tout candidat doit se prévaloir de deux parrains. Je serai le premier et on convaincra votre directeur général d'être le second. Les règles d'attribution imposent que le récipiendaire possède de brillants états de service, militaire ou civique. Tâchez de boucler votre enquête et le reste suivra. Les yeux de l'ange luirent une seconde. Monsieur le juge, je profite de l'occasion pour évoquer un détail avec vous. Allez-y. Voilà, j'ai de solides inimitiés avec Hubert Martin, le chef du deuxième service de la milice. Un type ombrageux. Il peut représenter un obstacle pour mes hommes. Le cas échéant, votre arbitrage nous serait utile. Floche fit la moue. Pour l'instant, la milice n'est pas armée et se contente de bomber le torse. Quant à Darnan, leur chef, c'est un rustre. Je ne le vois pas demain à l'intérieur, mais Bousquet est affaibli, c'est indéniable. Alors, restons prudents. Notre enquête relève du droit commun. La milice s'occupe des dissidents politiques. Personne ne devrait se marcher sur les pieds. J'ai votre soutien ? J'ai été clair, il me semble. Voilà.
Vous écoutez Poker Menteur sur Calade. Nous sommes dans notre émission de la rentrée en compagnie de Sylvain Forge, écrivain, et nous parlons de Polar et Histoire. Nous venons de lire, du moins notre invité Sylvain Forge vient de nous lire un extrait du Vallon des Parcs, le roman qui se situe durant à Vichy en 1943, durant la collaboration, et qui est pourtant un roman policier. L'extrait que vous venez de nous lire, Sylvain, est très intéressant dans le personnage déjà du commissaire André Lange, parce qu'au départ, en fait, dans le roman, on comprend vite qu'il est assez réticent vis-à-vis du nouveau pouvoir. Il ne partage pas du tout leur philosophie. Mais on va petit à petit voir, je dirais, la flamme de l'envie, de l'intérêt dans ses yeux qui s'allument, et notamment la Francisque, l'idée d'avoir cette décoration et de pouvoir ensuite, ça on le verra dans la suite du roman, progresser dans l'échelle sociale, du ministère de l'Intérieur. On voit qu'il se prend au jeu en quelque sorte et se crée une coupure dans le roman avec son équipe qu'il a ramenée et qui, eux, restent... beaucoup plus ouvert sur la réalité, c'est-à-dire le fait que non, ils ne veulent pas collaborer et qu'ils savent que ce régime tôt ou tard va tomber. Du moins, ils en ont la conviction. C'est un peu comme ça que je le ressens dans cet extrait, Sylvain Forge.
Oui, c'est juste. André Lange, c'est un ambitieux.
Oui, c'est ça.
Alors, c'est vrai que c'est un personnage qui, au début, estime qu'il va pouvoir, en quelque sorte, jouer avec les événements, mm-hmm. au bénéfice d'ailleurs de ses hommes, ce que montre un peu l'extrait. C'est-à-dire, je vais accepter la Francisque. Ça sera donc une sorte de protection.
Voilà, de bouclier.
De bouclier qui me permettra donc d'avoir les coups des franges par rapport à la milice dont on sent déjà fin 43
qu'elle monte en puissance.
Ouais. À la milice qui est donc une sorte de police politique armée, hein. Elle avait une branche armée qui était la Francarde, elle avait une branche de renseignement qui est le deuxième service, et c'est devenu bientôt l'antichambre de ce qu'allait devenir le régime, c'est-à-dire une organisation fasciste extrêmement brutale au printemps 44. Donc André se dit je vais donner des gages au nouveau régime, je pense que je peux sauver l'essentiel en acceptant des accommodements raisonnables avec le nouveau pouvoir. Je ne perds pas de vue que je suis là pour aider mes hommes. Donc, ce positionnement au plus haut niveau me permettra d'avoir des demandes, voire des exigences, et donc de servir les intérêts de mon service. Et alors, le problème, c'est qu'il y a un moment donné, vous mettez la main dans un mécanisme inconnu et... vous êtes en train après de...
Et le bras vient avec, hein, voilà, je dirais.
Vous éloignez. Et c'est vrai que c'était une période très complexe. Il y avait notamment... ce qui m'avait fasciné, moi, en faisant des recherches sur cette période, c'est que... vous aviez, par exemple, au début de la guerre, des commissaires de police qui, très tôt, ont voulu rejoindre la résistance et démissionner.
Oui.
Et on leur a dit, la résistance leur a dit, non, surtout pas.
Oui, restez en place. Hein.
Vous serez beaucoup plus efficace pour la résistance à l'intérieur du
système.
Plus
utile, tout à fait.
Qu'à l'extérieur. Et donc, certains ont accepté. Et le problème, c'est qu'au fil des années, leurs interlocuteurs au sein de la résistance ont pu changer, voire même se faire décimer. Mmh. Et à la libération, il n'y avait plus personne pour attester qu'à un moment donné, c'était sur ordre de la résistance
qu'ils sont restés en place.
Ouais. Et du coup, ils se sont retrouvés finalement gravement inquiétés au moment de l'épuration, au risque même d'être fusillés ou...
Ouais.
Et ça montre bien montre
toute la complexité humaine derrière les visions en noir et blanc.
La période, voilà.
Ouais,
la complexité de la période, tout à fait.
Une petite chose aussi, peut-être pour terminer cette émission, rapidement, vous abordez une thématique dans ce roman, sans trop spoiler, donc je vais rester très général, la thématique un peu de l'intérêt du régime nazi pour des sortes d'élucubrations historiques, un peu hein, sur l'envie de prouver que la race aryenne est bien la race supérieure et que historiquement, on peut prouver ça, etc. Comment vous avez mis le doigt sur cette thématique, Olivier Forge?
Parce que le...
Sylvain Forge, excuse-moi, je l'ai appelé Olivier.
Ce qui est fascinant, pas loin de Vichy, c'est qu'il y a un site qui s'appelle Glozel, qui est un hameau donc à peu près 20 km de Vichy, où il y a très longtemps, enfin il y a maintenant pas mal d'années, il y a un paysan des environs qui s'appelait Émile Fradin, et qui a découvert avec le soc de sa charrue une cavité dans son jardin, enfin dans son champ, qui contenait des poteries et des statues qui semblaient remonter au néolithique, et qui pourtant étaient recouvertes d'écriture. Et alors, il y a un pharmacien de Vichy qui était passionné d'archéologie, qui est venu, qui a commencé à écrire des articles. Bon, la presse s'en est mêlée. Et donc, il y a une sorte de controverse qui est née en se disant, mais est-ce que finalement, l'écriture n'est pas beaucoup plus ancienne qu'on ne l'a cru? Et surtout, est-ce qu'elle n'aurait pas eu comme berceau l'Occident et non pas la Mésopotamie? Et du coup, donc c'était une controverse. On a dit que c'était l'affaire de Dreyfus de l'archéologie. Enfin, ça a été très, très, très violent. Et donc, en plus, voilà, donc c'était très bizarre parce que c'est poteries était couverte d'une écriture étrange, ésotérique, bon bref. Effectivement, donc ça c'était intéressant d'avoir à la fois le contexte de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Vichy, et puis cette espèce de site très très surprenant. Et comme j'avais découvert que les Allemands, une branche des nazis qui s'appelait l'Annenerbe, se passionnait pour tout ce qui était ésotérisme et archéologie, l'espèce de prétention de démontrer que toutes les grandes inventions de l'humanité avaient pour origine les Aryens.
Exactement, c'est ça.
Voilà. Et donc, qui envoyaient des expéditions au Tibet et dans différents pays. D'ailleurs, c'est ce qui a inspiré Steven Spielberg dans
Totalement,
Indiana Jones.
Indiana Jones, oui, tout à fait.
Que ce soit dans
le premier et le deuxième.
Le premier et le deuxième.
En Égypte, notamment.
Le premier et le deuxième, surtout, où on cherche les tables de la loi et puis le Graal. Il y a une part, il y a une vérité historique derrière cette fantaisie, c'est qu'effectivement, il y a eu des... puis c'est vrai qu'à l'époque, quand les nazis étaient au pouvoir, quand vous étiez archéologue, il fallait prêter allégeance si vous vouliez continuer d'être...
Vous n'aviez pas le choix.
Et donc, ils ont réussi enrôlé un certain nombre d'experts de l'époque, hein, ce qui a servi leur propagande. Voilà.
Très
et donc
bien.
Voilà, j'ai voulu.
Vous avez voulu intégrer ça dans votre roman.
Je dis toujours qu'une bonne histoire, c'est une histoire dans l'histoire, et que derrière cette enquête qui met aux prises les policiers avec le régime de l'occupation, il y avait aussi une sorte d'intrigue ésotérique autour du site de Clauzel, qui est à quelques encablures
de Vichy. Eh bien, on va vous remercier, monsieur Forge. Forge.
Merci d'avoir participé à cette émission.
C'est moi qui vous remercie.
Et on va vous dire, les auditeurs, au mois prochain.
Merci,
au revoir.
Mathieu. À plus.
Au revoir. Merci à tous.
Au revoir.
Poker Menteur. Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur. L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Galade 100.9.